Bonsoir, trois thèmes pour cette tribune de la presse à savoir. Assemblée nationale, le Premier ministre s'adressant aux députés mercredi dernier a affirmé que la situation générale du pays s'améliore, mais que des efforts restent encore à fournir. Ensuite, affaire Jean-Pierre Bemba, un groupe de parlementaires congolais ont déposé samedi 24 avril dernier une pétition à l'ambassade de Belgique pour demander à ce pays de recevoir sur son territoire le sénateur Jean-Pierre Bemba au cas où il bénéficierait d'une mise en liberté provisoire. Enfin, les chauffeurs des transports en commun ont observé lundi dernier dans la ville de Kinshasa un arrêt de travail pour s'opposer aux différentes tracasseries policières et administratives dont ils sont victimes. Trois journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Médar Mbuyal Mangala, il est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise KFMC en sigle. Marcelin Mandoatila, il est directeur des rédactions du quotidien Forum des Actes, un journal qui paraît à Kinshasa. Et Guylain Banza, il est directeur de la Radio-Télé Fraternité et directeur provincial de l'Agence Congolaise de Presse, ATP en sigle, Kasaï Oriental. Le Premier ministre face aux députés, pétition des parlementaires en faveur de Jean-Pierre Bemba, ainsi que l'arrêt de travail observé par le chauffeur chinois, tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse chinoise a traité ces différents sujets? Écoutons cette revue de presse que nous propose Aimé Kamoua.
Bonsoir. Trois sujets ont fait la une des journaux Paris cette semaine à Kinshasa. D'abord, la réponse du Premier ministre Adolphe Mouzito aux questions des députés nationaux. Ensuite, la pétition lancée par l'Union pour la Nation en faveur de Jean-Pierre Bemba. Et enfin, la grève des chauffeurs à Kinshasa. Au sujet de la réponse du Premier ministre à l'Assemblée nationale, le potentiel titre. Après les explications de Mouzito, motion de censure contre le Premier ministre. Selon ce journal, l'auteur de la question orale l'a transformée en motion de censure. Mouzito ayant refusé de verser dans la médiocrité, Jean-Lucien Goussa craque et fait une conclusion basée sur la rumeur, titre l'avenir. Abondant dans le même sens, le palmarès estime la question orale a tourné au mensonge. Selon ce journal, la conclusion de cette question orale a versé dans la diffamation en violation du règlement intérieur qui interdit de s'attaquer à l'invité de l'Assemblée nationale. Autre sujet abordé dans cette revue de presse, c'est la pétition initiée en faveur de Jean-Pierre Bemba. À ce sujet, l'avenir annonce que la Belgique juge cette démarche prématurée. Pour la tempête des tropiques, Bozizé se positionne contre Bemba. Selon ce journal, l'avocat de la République centrafricaine a déclaré être déterminé à ne pas renoncer au procès contre le sénateur congolais emprisonné à la haie. Terminons cette revue de presse avec la grève des chauffeurs à Kinshasa. La tempête des tropiques qui signale que cette grève a plutôt profité aux taxis motos qui ont tourné à plein régime. Le potentiel quant à lui pense que cette situation était prévisible vu qu'il n'existe pas de transport public dans une ville de Kinshasa qui compte plus de 6 millions d'habitants.
Merci Aimé Kamoua. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons d'écouter. Médar Mbuyal Mangala, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. Votre réaction par rapport à la manière dont la presse a traité les trois thèmes retenus pour le débat de ce soir?
Il faut dire que les confrères et les concerts ont travaillé avec le professionnalisme pour les restituer véritablement tous les faits tels qu'ils se sont déroulés, mais il y a aussi un peu du dérapage, surtout sur la question Jean-Pierre Bemba, dans certains médias, surtout les médias que je vais appeler les médias de la victoire. Là, vous trouvez des titres...
Qu'est-ce que vous appelez les médias de la victoire?
Parce que justement, autour du rond-point de victoire, que vous trouvez des titres qui vous annoncent Jean-Pierre Bemba sera libéré demain, Jean-Pierre Bemba libre de tout mouvement. Alors, c'est vrai que c'est un citoyen congolais, son cas nous concerne. Mais traiter avec légèreté tel que les titres que je suis en train de rencontrer à Victoire, ça m'inquiète. Je me dis, il y a des efforts. Si déjà la âme a pris à balancer ces sanctions à gauche à droite, pourquoi la âme ne s'occuperait pas de confrères qui sont en train de traiter avec légèreté la vie des hommes politiques et des citoyens congolais?
Marcel Mandoatila, vous êtes directeur de rédaction du quotidien Forum des Arts, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Votre appréciation par rapport au travail de la presse chinoise de cette semaine?
Écoutez, moi je crois que le plus important c'est de permettre qu'il y ait un débat sur la place publique, que ce soit sur la question de l'Assemblée nationale, du pays d'accueil de Jean-Pierre Bemba ou le transport qui était paralysé lundi dernier. La presse apporte des éléments dont elle dispose. Le plus important, c'est les débats, je crois. Les débats, ça existe partout, même en politique, à quelques niveaux que ce soit, même au gouvernement. On a déjà à avoir des cas comme ça. Le plus important pour moi, c'est le débat.
Guylain Banza, vous êtes directeur de la radio-télé Fraternité et directeur provincial de l'ACP Kasaï Oriental. Et quelle est l'actualité qui a dominé cette semaine dans votre province, la province du Kasaï Oriental?
L'actualité ici au Kasaï Oriental était plus dominée par une question de l'approvisionnement en eau. Ici, c'est un problème casse-tête ici chez nous avec des difficultés que rencontrent depuis quelque temps la régie des eaux pour desservir la population en eau potable. C'est la grande actualité parce que quand on voit des milliers de femmes circuler avec des bassines, avec des bidons jaunes pour la recherche de l'eau à de longues distances, cela engendrait même un peu quelques cas d'accidents. C'est un problème sérieux. Je crois que c'est un grand problème d'actualité ici chez nous, dans le Kasaï Oriental, singulièrement dans la ville de Mbujimayi. Et quelques tensions observées dans certains villages à la suite des conflits des limites de terre. Voilà un peu ce qui a fait la grande actualité cette semaine ici chez nous en Mbujimayi.
Merci. Avant d'aborder notre premier thème, nous allons émettre un petit commentaire par rapport à cet atelier organisé depuis mardi à Kinshasa par l'Observatoire des médias congolais OMEC en sigle, avec comme thème « Tolérance zéro, sécurité des journalistes, défis et perspectives ». Selon le président de l'OMEC, la sécurité des journalistes constitue un vrai problème en République démocratique du Congo. Pour l'illustrer, Polydor Mouboyaï a évoqué plus de 5 cas d'assassinat des journalistes intervenus ces 5 dernières années, ce qui nécessite l'apport non seulement des journalistes, mais aussi l'engagement des gouvernants. Un petit commentaire, Marcelin Mandouakila, par rapport à cet atelier des journalistes.
Oui, c'est que c'est assez important de penser à notre sécurité, parce que nous sommes au service de la nation à travers l'information que nous apportons à nos compatriotes. Il faudrait qu'on déplore presque pas de cas de décès, même d'arrestation, pour qu'on permette de travailler le plus sérieusement du monde. Je crois qu'il y a des instances habilitées pour régler le problème en cas de dérapage, et nous avons nos structures à nous aussi, lorsqu'il y a des dérapages, notamment l'OMEC, il y a beaucoup d'autres structures. On doit vraiment penser à notre sécurité pour nous permettre de rendre service à la population, surtout que nous travaillons dans des conditions très, très difficiles.
Mesdames, Mouyal Mangal, un commentaire?
Oui, moi j'ai dit la sécurité, nous devons apprendre à l'aborder de deux manières. La première manière, c'est la sécurité physique. Mandouakil l'a évoqué, je le remercie pour autant. Mais il y a aussi la sécurité dont on ne parle pas. C'est la sécurité sociale du journaliste qui travaille dans une rédaction. Et là, c'est un casse-tête pour tous les médias, presque tous les médias, sur les 98 ou 99% des médias congolais qui fonctionnent, ces médias-là n'assurent pas véritablement la sécurité sociale pour les journalistes. Et pour cause, dans la plupart des cas, on préfère engager à la qui va vite, et puis on dit non, vous n'êtes pas fier de passer à la télé, vous n'êtes pas fier de faire de l'animation, qu'est-ce que vous recherchez encore? Donc cette question, généralement, nous les journalistes, nous n'avons pas le courage de nous la poser, parce qu'on a peur d'être évoqué aussitôt que la question est posée, et c'est des choses qui arrivent.
Guylain Banza, votre réaction?
Je crois que je vais aborder plutôt singulièrement l'aspect sécurité sociale. On a eu, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, en ajoutant que lorsque l'aspect sécurité sociale n'est pas mis en jeu dans les rédactions, dans les organes de presse, nous tombons dans une situation très triste. Il y a ce que moi j'appelle aujourd'hui le journalisme alimentaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un journaliste qui n'a pas de position, qui n'a pratiquement pas de salaire, qui ne connaît pas ce qu'il peut faire le lendemain, il peut manger quoi, il n'a rien du tout, mais il fait du journalisme alimentaire, c'est-à-dire qu'il va demander partout, il va même diminuer le niveau de la profession. Ça je le décris souvent dans mes entretiens, surtout avec mes jeunes confrères qui viennent après nous, parce que ce que je vois maintenant, si la maison ne paye pas bien, s'il n'y a pas assez, comme c'est observé généralement dans beaucoup de rédactions, il n'y a pas de salaire pour un journaliste, pas du tout, mais le journaliste lui-même peut prendre une position, parce que c'est un monsieur, il doit se défendre. Mais quand on commence à se mettre à demander, à vivre aux dépens de certains sponsors, entre guillemets, quand on a des sponsors, déjà, on bafoue les règles de la profession. Je pense que c'est important que de tels ateliers soient organisés, non seulement à Kinshasa, mais il faut penser aussi à l'intérieur du pays où il y a des maisons de presse qui sont créées chaque jour, il y a des radios qui sont créées à tout instant et on engage à la Kipazite, comme mon confrère l'a dit, et c'est vraiment des choses qui ne ressemblent pas à la profession à l'intérieur du pays.
Nous rappelons que la clôture des 10 travaux interviendra le 3 mai prochain, date de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Assemblée nationale, le Premier ministre s'adressant aux députés mercredi dernier, a affirmé que la situation générale du pays s'améliore, mais que des efforts restent encore à fournir. Adolfo Mouzito répondait aux préoccupations soulevées la semaine dernière par les députés nationaux lors de la question orale avec débat initié par le député Jean-Lucien Boussa. Le Premier ministre estime que la situation sécuritaire, économique et financière du pays s'est beaucoup améliorée. Ces propos sont rejetés par Jean-Lucien Boussa, l'initiateur de la question orale. Plus de détails avec Julien Nyamoni.
Le Premier ministre a déclaré que la situation sécuritaire du pays était globalement bonne, tout en reconnaissant les postes d'insécurité qu'il qualifie de résiduels. Adolphe Mouzito a indiqué que l'amélioration des relations avec les pays voisins a joué un rôle déterminant pour que la paix revienne au pays. Adolphe Mouzito.
Le pays n'est plus aujourd'hui en situation de guerre menaçant sa souveraineté. Néanmoins, il demeure une approche conflit et fragile. Ainsi, on estime que pour les sécurités sur lesquelles les honorables députés attirent souvent et avec raison l'attention du gouvernement.
Dans sa réplique, au répondu chef du gouvernement, Jean-Lucien Boussa estime que le gouvernement a échoué sur tous les plans.
C'est l'état des lieux que vous dressiez lors de la présentation de votre programme en 2008. Procédez de la maîtrise par votre gouvernement, des fautes profondes de la délicatesse de l'État, la réalité des terrains qui transparaissent du vécu quotidien sur le monde, prouve à suffisance que ce qu'il y a de significatif, c'est l'échec.
Jean-Lucien Boussa a ajouté que les membres du gouvernement s'enrichissaient sans cause, avec à la tête Adolphe Mouzito. En réalité, Jean-Lucien Boussa a promis de déposer une motion de méfiance vis-à-vis du gouvernement, mais la majorité n'a pas encore dit son dernier mot.
Médard Mouyal Mangala, comment vous analysez ces affirmations du Premier ministre qui sont cependant rejetées par l'initiateur de la question orale, le député Jean-Lucien Boussa?
Mais globalement, le Premier ministre a raison, ça veut dire qu'il s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs qui lui permettent d'affirmer que la situation est en train de changer. Et pour preuve, vous voyez par exemple que même les relations que le gouvernement congolais entretient avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire, les principaux partenaires, qui eux aussi ont des mécanismes qui leur permettent d'évaluer si l'État marche ou ça ne marche pas. C'est ces éléments sont acquis, c'est des indicateurs, c'est des éléments vérifiables.
Oui, il a raison, mais apparemment, il n'a pas satisfait les députés.
Oui, il n'a pas satisfait les députés du fait que sur le plan social, on ne ressent pas encore ces éléments. Les salaires sont restés ce qu'ils ont toujours été. Et l'environnement social rencontre un certain nombre de difficultés. Et là, hélas, on peut dire que ça ne marche pas. Mais de manière générale, la situation s'est améliorée. Et même l'extérieur, qui généralement s'est toujours servi d'indicateurs et de clairvoyants, réalise qu'il y a quelque chose qui est en train de marcher, mais les résultats ou l'impact de ces réformes, l'impact de cette gestion n'a pas encore atterri au niveau de ménage du citoyen congolais. Mais il faut aussi dire que nous, on est face aux députés. Et de manière générale, les députés, c'est des gens qui ont fait des promesses à gauche et à droite, et on est en train de tirer vers la fin de leur mandature, et ils n'ont pas de messages à transmettre à la même population. Parce qu'ils ont fait des promesses, qu'ils vont construire des ponts, qu'ils vont construire des écoles, et des maternités à gauche et à droite. Et ça doit nous amener à la maturité politique, pour que quand on va en campagne électorale, que le député n'ait pas comme message, je vais faire, parce que vous n'êtes pas le gouvernement. Le député n'a pas comme fonction de construire des écoles. Maintenant, la difficulté, il y a même un député qui a dit, Monsieur le Premier ministre, avec tout ce que vous êtes en train de faire, vous mettez à mal notre campagne de 2011. les députés sont quelque peu perdus parce qu'ils savent qu'il faut s'accrocher à quelque chose. Alors à ce moment-là, il faut à tout prix tirer sur le Premier ministre, tirer sur le gouvernement pour attirer la sympathie de la population, pour attirer la sympathie des électeurs potentiels.
Oui, et nous allons lire les hymnes de certains journaux. Nous avons le quotidien L'Observateur qui, sur sa manchette du jeudi 29 avril, dit ceci. Pour des réponses jugées non satisfaisantes à la question orale, le gouvernement Mojito menacé par une motion de censure. Le quotidien Le Palmarès du 29 avril dit ceci. Sur sa manchette, en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Mojito dépité, la question orale a tourné au mensonge. La référence plus, le quotidien, la référence plus, sur sa manchette dit, après une séance agitée hier, le duel opposition-majorité s'est poursuivi à l'Assemblée nationale, et il pose la question, jusqu'où ira Jean-Lucien Boussard? Et enfin, le quotidien L'Avenir, du 29 avril, sur sa manchette dit ceci, Mojito ayant refusé des assez dans la médiocrité, Jean-Lucien Boussa dérape, une conclusion basée sur la rumeur. Marcelin Mandouakila, le Premier ministre a quand même reconnu qu'il y a des choses à faire, il y a des efforts à fournir, mais pourquoi, en dépit de tout ce qu'il a dit, l'opposition va jusqu'à envisager une motion de censure contre, de méfiance contre le gouvernement?
Oui, dans un premier temps, je voudrais relever que c'est de la nature de l'opposition de ne pas faciliter la tâche au pouvoir. Quand un député de l'opposition interpelle ou adresse la question à notre Premier ministre, ce qui l'intéresse le plus, c'est de relever ses faiblesses pour conclure en un échec. Le Premier ministre, quel que soit le contexte réel dans lequel nous vivons, ne pourra que dire que le gouvernement fournit des gros efforts pour que les choses s'améliorent. Mais je crois, comme l'a relevé Médard, le plus important, lorsqu'on dit qu'il y a des efforts qui sont fournis, lorsqu'on dit que la situation a évolué, le plus important, c'est le peuple. Comment il ressent ces efforts? Il ne faut pas que ces efforts se dispersent dans la nature, au point de nous ramener un peu sur la deuxième rubrique, rappelez-vous, ce n'est pas la première fois avec le FMI. Avec mon premier ministre, le Zaïre, c'était le bon élève du FMI. On avait serré la ceinture, mais pour quels résultats on fait des comptes? Ça n'a pas amélioré les conditions de vie de la population. Il ne faut pas qu'on retombe dans la même situation. Il faut que lorsque le gouvernement fournit des efforts, il ne faut pas que seulement les députés les sentent parce qu'ils ont signé dollars. Mais il faut vraiment que ceux qui travaillent, le petit peuple, à travers leur salaire, qu'ils sentent réellement qu'il y a une amélioration. C'est lorsque notre budget monte graduellement chaque année, on est parti de 500 millions pour arriver aux audiences de 3 milliards de dollars. Il faut que le peuple ressente réellement que nous évoluons. Mais si on va sur cette piste-là, on se rend compte que le résultat est vraiment comparable à un échec. Autre chose que je voudrais relever, c'était ma crainte qu'une question orale avec un arrière-goût d'interpellation nous fasse oublier l'affaire Mbandaka. Et c'est ce qui est arrivé maintenant. On a oublié qu'il y a eu des morts en Mbandaka. Et on a oublié qu'il y avait une situation en Mbandaka.
On n'a pas beaucoup insisté sur la question de Mbandaka.
Justement, c'est une déviation. Les gens ont quitté ce terrain-là, c'est pourquoi j'avais
pourtant c'est ce qui a constitué des déclics.
C'était ça l'actualité, mais maintenant c'est noyé. Maintenant l'actualité, c'est la motion de censure contre le Premier ministre. Là aussi, je voudrais dire une chose. Bon, mensonge, accusation sans preuve. Si c'est que Lucien Boussa a dit, en parlant des avoirs du Premier ministre, si cela est vrai, ça doit être un cas de conscience. Il ne faut pas que cela passe comme sous la tradition 1 plus 4, 32 millions de la semaine payés par le Congo-Brazzaville, dilués, et puis il n'y a pas eu de débat. Si cela est vrai, moi je crois même qu'on doit aller plus loin. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Qui le prouve? S'il le prouve, on doit en tirer des conséquences. Tout comme s'il n'a pas de preuves, on tire des conséquences également. Mais une telle alerte, il ne peut pas passer comme ça, comme un coup de banc.
Guilain Banza, comme le dit Marcelin Mandouakila, le plus important c'est le peuple. Et la population du Mujimaï, est-ce qu'elle ressent les efforts qui sont fournis par le gouvernement congolais?
Bon, en tout cas, il y a bien des choses à dire autour de la réponse du Premier ministre devant le Parlement. Je voudrais dire d'abord que si les promesses continuent à être faites et qu'on dit qu'il y a encore des choses à améliorer, mais je ne sais pas jusqu'à quand, parce qu'on avance doucement vers la fin du mandat. Jusqu'à quand on va continuer à dire qu'il y a encore des choses à faire?
Ici en Bougimaille, on n'a pas ressenti. On a essayé de faire passer des vox pop à des personnes différentes, des catégories différentes de personnes. Mais on a senti qu'il y a un problème. Ici, lorsque je prends par exemple le fonctionnaire de l'État, ici il est majoritaire en Bougimaille. L'agent de l'État, c'est plein, c'est la carrière ici. Mais il se pose des questions, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été amélioré par rapport à quoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions de vie sont demeurées toujours très difficiles. Je voudrais relever un fait, je vais revenir là-dessus. Le confrère, je crois, Médard, le premier qui est fait, c'est Médard, je crois.
Médard Mouyel Mangan.
Oui. Il a dit globalement, ça va, et ainsi la Banque mondiale, le Fonds monétaire reviennent au pays, tout ça. Mais j'apprécie le dernier intervenant, pas moi.
Marcelin Mandouakida.
Oui, parce que je ne peux pas comprendre au nom de quoi on se dit bon élève, bon étudiant. On vous déclare comme ça au nom de quoi? Même à l'époque de la rigueur, quand on nous a déclaré bon élève de la Banque mondiale ou des FMI, mais c'était quoi la population avec quel type? Nous devons voir tout cela par rapport à ça. Mais si nous voyons l'amélioration des choses sur le plan classique, ah non, pas du tout. Nous voulons voir au niveau de la base où nous sommes, vivre décemment, le Bouddhi là, le fameux Bouddhi, où le fonctionnaire de l'État est placé à quel niveau aujourd'hui. C'est par là aussi que nous devons voir l'action du gouvernement, que le Premier ministre Adolphe Mougito a défendu dernièrement par rapport à la question de député Jean-Lucien Moussa. Demain, c'est la fête du travail, disons-nous quelque chose là-dessus, mais dans quelles conditions ces travailleurs vont fêter cette journée? Tout ce sont des problèmes. Nous voulons voir les actions palpables sur le terrain, vivre la chose, et non pas nous dire, il reste encore à faire, très bien, mais le mandat va vers la fin.
Mais il faut quand même commencer quelque part.
Il faut commencer, on a commencé, mais quand on commence, et avant que nous on apprécie, c'est le Fonds monétaire qui apprécie. Moi je ne vois pas quelque chose d'attirant là-bas. Nous-mêmes, les concernés, les bénéficiaires des actions du gouvernement, moi je crois que les premiers bénéficiaires c'est la population. Mais si nous-mêmes nous n'avons pas encore senti ces actions sur le terrain, mais c'est l'extérieur qui vient apprécier, mais moi je ne vois pas cela. Ils ont commencé peut-être pour améliorer les relations avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, pour reprendre les relations, pour que la Belgique puisse annuler les dettes. Mais en tout cas, sur le plan au niveau de la base, moi je ne vois pas la chose se faire de cette manière parce que nous-mêmes on n'a pas encore senti cela.
Merci, nous passons au deuxième thème de ce soir, affaire Jean-Pierre Bemba. Un groupe de parlementaires congolais a déposé samedi 24 avril dernier une pétition à l'ambassade de Belgique. Selon le député national Clément Kankou, coordonnateur de l'Union pour la Nation, une plateforme de l'opposition et initiateur de cette pétition, les parlementaires congolais veulent ainsi demander à la Belgique d'accepter de recevoir sur son territoire le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo au cas où il bénéficierait d'une mise en liberté provisoire. Le député national Clément Kankou l'explique au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous avons remis la pétition de plus de 120 parlementaires qui soutiennent la libération de Jean-Pierre Bemba Gombo et qui demandent à la Belgique de l'accueillir très rapidement parce qu'il sera très vite libéré. Nous voulons donner un signal fort à la Belgique qui a arrêté Jean-Pierre Bemba Gombo, la même Belgique à qui nous demandons aujourd'hui de coopérer avec la CPI. Il n'est pas normal que la Belgique puisse jouer ce jeu des politiciens, des calculs politiciens, qui tentent tout simplement à éloigner Jean-Pierre Bemba Gombo du Kinshasa ou de le garder en prison. Plus de 120 parlementaires ont signé, toutes les tendances sont confondues. AMP, opposition et les indépendants. Donc nous avons voulu donner ce signal à la Belgique qui nous a reçu, qui nous a rassuré par rapport à la coopération qu'ils vont accorder à cette affaire. Et la semaine prochaine, nous serons tous en Belgique. Les parlementaires que vous avez vus, on sera reçus au Sénat belge, à la Chambre des représentants, chez le Premier ministre, chez toutes les autorités, pour dire que le peuple congolais attend que la Belgique puisse jouer franc jeu.
Marcelin Mandouakida, votre réaction par rapport à cette démarche des parlementaires congolais?
Je pense qu'on doit arrêter de présenter Jean-Pierre Bemba comme un martyr. C'est comme ça que l'opposition n'arrête pas de dire que son procès est politique. Moi, je trouve qu'au niveau de la communauté internationale, il faut qu'il y ait des pays qui puissent donner des garanties en disant, si effectivement il y a une mesure de mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba, nous sommes prêts à l'accueillir. Question de s'assurer simplement qu'il reste prisonnier en n'étant pas dans les zones de la CPI, mais en étant soit en Belgique ou dans un autre pays d'accueil, mais qu'il soit toujours considéré comme un prisonnier en attendant déroulement du procès. Le fait que beaucoup de pays sollicités puissent rejeter
les membres de l'opposition poussent les opposants, principalement les gens du MLC, à dire que son dossier est vide, qu'il est conseil et politique. Il faut qu'on en finisse. Il faut bien qu'il y ait un pays qui puisse dire « Moi, je suis prêt à l'accueillir. » On attend la mesure de la CPI. Si jamais la CPI accorde la liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba, on le transfère effectivement dans ce pays, mais que les procès commencent pour qu'on sache finalement s'il est coupable ou s'il ne l'est pas.
Et le problème, c'est qu'il y a un pays qui accepte aujourd'hui d'accueillir Jean-Pierre Bemba sur son territoire, l'opposition va cesser d'évoquer les caractères politiques de cette affaire.
Justement, il faut éviter d'accumuler des éléments en faveur de l'opposition. Maintenant, ça devient leur cheval de bataille. Il faut qu'il y ait un pays. Dans, à ce moment-là, on rentre dans la procédure de la CPI. Est-ce qu'il y a liberté provisoire? Oui ou non? S'il y a liberté provisoire, on le transfère dans ce pays. Mais que le procès commence pour qu'on sache effectivement s'il a été coupable, si ces milices ont été coupables de ce qu'on leur reproche à Bangui, ou si cela n'est pas le cas. Moi, je pense qu'on doit arrêter d'en faire un martyr.
Oui, nous allons lire les lignes de certains journaux. Le quotidien L'Avenir, du 28 avril dernier, sur sa manchette par rapport à la question à l'affaire Jean-Pierre Bemba, dit ceci: pour l'accueil de Jean-Pierre Bemba, pétition des députés, démarche prématurée, estime la Belgique. Le quotidien La Tempête des Tropiques, du 28 avril, sur sa manchette, dit: le non-lieu du chairman du MLC remise en cause en Centrafrique. François Bozizé se positionne contre Jean-Pierre Bemba. Médard Mouyal Mangal, le député Clément Tancourt affirme que cette pétition a récolté plus de 120 signatures de députés, des parlementaires. Quelle chance vous accordez à cette pétition?
Donc, ici, il n'est pas question d'analyser les pétitions parce que nous sommes face à une enquête judiciaire. Or, la tendance des députés, c'est vers la politisation. À ce moment-ci, ça pose un sérieux problème pour les médias tels que nous sommes en train. Sommes-nous face à un procès ou sommes-nous dans une affaire politique? Les députés MLC, les députés de l'opposition, veulent nous ramener, et le plus souvent aussi, le maître Kilolo, un des avocats de Jean-Pierre Bemba, ils aiment souvent nous amener sur le débat politique. Et ça pose des sérieux problèmes dans la compréhension si nous sommes dans la justice. C'est vrai que la CPI communique, je dirais, elle communique pas suffisamment parce que face à un son de cloche, un seul son de cloche, c'est une affaire politique. Jean-Pierre Bemba a été amené ici dessus. Nous le voulons bien. Mais ça pose tout de même des sérieux problèmes de compréhension. C'est-à-dire, il va faire que toutefois qu'on parle, qu'on pose aussi d'autres questions dans notre camp pour rassurer. Parce et le plus souvent, on se dit non, c'est une. En fait, on a l'art de banalisation, et par moments, ça permet même d'assurer la visibilité de ces députés qui veulent se présenter comme les champions de la défense des gens terminés.
Et donc, vous n'accordez aucune chance à cette pétition, à la démarche des parlementaires?
Non, ça, je dis, ça, c'est une démarche politique pour parvenir à une affaire judiciaire. Je me dis non, il n'y a pas d'équivalent.
Ils l'ont souligné, hein, les députés Clément Tancourt l'a dit lors d'une de nos émissions que nous avons organisées cette semaine. Il dit que cette démarche a un caractère politique. Il ne s'agit pas d'une démarche judiciaire. Il ne s'agit pas pour les parlementaires de chercher à influer sur la décision de la CPI, mais plutôt de demander à la Belgique, au cas où la CPI a accordé cette liberté provisoire à Bemba, de demander à la Belgique d'accepter de l'accueillir sur son territoire.
Ça veut dire le procès, du moins la remise à un niveau du procès qui devait intervenir. On est arrivé, on a déjà dépassé le 26. Au 26 avril, la liberté provisoire qu'on attendait là n'est pas parvenue, n'est pas arrivée. Et donc, nous nous retrouvons dans un cycle d'arguments qui va de permettre aux députés de voyager, d'aller, de rentrer. Savez-vous, donc, autour du Dieu, on veut se faire ça autour du dossier des gens de Bemba. C'est compréhensible quand on est de l'opposition.
Oui, Guilain Banza, selon vous, pourquoi ces parlementaires qui ont initié cette pétition ont choisi seulement la Belgique, alors que il y a des pays comme le Portugal, il y a des pays comme la France, il y a même la République démocratique du Congo. Pourquoi seulement la Belgique, à votre avis?
Bon, pourquoi seulement la Belgique? Assure le député Clément Tancourt, il a essayé d'expliquer que c'est par là qu'il a été pris. Mais moi, je crois que Jean-Pierre Bemba est congolais. Il faut plutôt solliciter qu'il rentre au pays, qu'il ne soit pas éloigné de son pays, qu'il ait une liberté provisoire. Mais la question que je me pose par rapport à cette démarche est celle-ci. Pourquoi est-ce que les parlementaires n'ont pas voulu plutôt suivre, demander à la CPI pourquoi ça traîne? Parce que ça traîne, le procès n'a jamais commencé.
pourquoi ne pas amorcer une démarche pour que ça commence quand même? Parce que si on juge aujourd'hui que le dossier est vide, mais il n'y a que la CPI qui peut le dire, qu'on dise à la CPI de commencer le procès. Je crois que c'est une bonne démarche, comme l'a dit mon confrère, c'est une enquête judiciaire. Eux viennent avec politique, mais la CPI est indépendante. Je crois que c'est la politique, est-ce qu'elle a une action à faire là-dedans? Demandons qu'on commence le procès pour qu'on sache, en fin de compte, si Jean-Pierre Bemba est fautif par rapport aux événements de Bangui, oui ou non. C'est ce que nous tous nous attendons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas culpabiliser ou pas Jean-Pierre Bemba, parce qu'il n'y a que la justice, la CPI qui peut le faire. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de voir d'abord le procès commencer pour que nous sachions de quoi il s'agit. Bon, après, si on accordait une liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba, nous, on aurait souhaité que Jean-Pierre Bemba regagne le pays. Pourquoi il ne peut pas regagner son pays en attendant la suite du procès? Est-ce qu'il y a, dans l'organisation de la CPI, il y a des clauses qui interdisent que les prévenus qui demandent, qui est bénéficiaire d'une liberté provisoire ne puissent pas rentrer dans son pays d'origine, parce que la suite est à craindre ou quoi, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, je crois qu'il peut carrément rentrer au pays pour y rester attendre la suite de l'enquête judiciaire.
Merci bien. Merci Guylain. Marcelin Madokina, partagez-vous les points de vue de Guylain Banza qui pense qu'il faut beaucoup plus insister sur l'organisation du procès au lieu de passer le temps à demander, exiger la liberté provisoire du sénateur Jean-Pierre Bemba?
Oui, on a plus besoin de savoir, comme il l'a dit, ce qui s'est réellement passé, si Jean-Pierre Bemba ou ses hommes, s'ils sont coupables ou pas. Mais je crois que c'est aussi la vitesse de la CPI. Apparemment, la CPI n'a jamais été pressée. Des questions de procédure peuvent prendre 2, 3, 4 ans. On a vu ça avec d'autres procès avant que...
Notamment celui de Thomas Lubanga.
Avant que le procès vraiment ne commence, et le procès lui-même va prendre aussi beaucoup de temps. Mais je voudrais qu'à ce stade, qu'on dissocie les choses. La démarche des parlementaires, faire pression sur la Belgique, ou peut-être un autre pays, pour que Jean-Pierre Bemba, en cas de mise en liberté provisoire, soit accueilli, je trouve ça normal, il faut qu'il y ait un pays qui se porte garant, mais le vrai problème, c'est au niveau de la CPI. Est-ce que la CPI a déjà accepté qu'ils en peuvent bénéficier d'une liberté provisoire? Donc, il faut dissocier les choses. Lorsque Guilain parle du Congo, que le Congo l'accepte, je crois qu'on n'a pas besoin de réfléchir, d'être à la place de ces pays pour comprendre ce qui s'est passé avant que Jean-Pierre Bemba quitte ces pays. Et si ici déjà les parlementaires peuvent se rendre en Belgique ou ailleurs pour faire pression, Jean-Pierre Bemba Kinshasa, je crois qu'il y aurait des marches chaque jour et la situation serait incontrôlable.
Une audience de mise en état sur Jean-Pierre Bemba a eu lieu mardi dernier à la Cour pénale internationale. Audience au cours de laquelle la Cour a fait, entre autres, une évaluation sur les conditions de détention du détenu. Pour les cas de Jean-Pierre Bemba, aucune critique négative n'a été formulée en rapport avec ces conditions de détention. Mesdames Bouyal Mangal, comment entrevoyez-vous l'issue de l'affaire Jean-Pierre Bemba?
Compliqué, très compliqué, difficile de comprendre, parce que la CPI elle-même, c'est une jeune institution. On n'a pas de cas par le passé qui puisse vous permettre de dire ou même de faire l'anticipation. C'est ça la vraie difficulté. Déjà, nous, dans la plupart des cas, nous apprenons à connaître chaque jour la CPI. Et dès lors, il est difficile d'envisager, dans une certaine mesure, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on ne connaît pas, personne ne peut dire avec exactitude le fonctionnement exact de la CPI, parce que le comportement des juges, le comportement des Moreno, le comportement des avocats, ça change et ça nous. On assiste chaque jour à des rebondissements. Donc, difficile de faire des analyses, difficile de faire de l'anticipation.
Guilain Banza, vous, comment vous entrevoyez à l'issue de cette affaire, Jean-Pierre Bemba?
Mais c'est vrai, la CPI et son fonctionnement aussi, je rejoins mon confrère. Ça nous dérange. Donc c'est trop long, mais ça veut dire quoi? Et cela donne l'occasion aux politiciens de l'opposition aujourd'hui de croire que le procès est politique. Ça traîne, et je vois que le confrère qui a dit avant a dit, mais c'est eux, c'est le système, et ça prend du temps. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Ils le font ainsi en violant leur propre loi, ou bien c'est ce que leur loi prévoit pour qu'ils puissent prolonger des procès comme cela? Ils prennent le temps de faire quoi? De mener des enquêtes ou quoi? L'issue Entrevoir, c'est difficile, mais je pourrais mettre un souhait. Mon souhait, c'est que la justice soit faite. Si il n'en est pour rien, il est acquitté. On a besoin d'un Congolais pour un plus dans le fonctionnement des institutions du pays. C'est quoi, c'est mon avis.
Merci. Nous passons à notre dernier thème ce soir. Les coffreurs des transports en commun ont observé lundi dernier dans la ville de Kinshasa un arrêt de travail pour s'opposer aux différentes tracasseries policières et administratives dont ils sont victimes. Par conséquent, il n'y avait ni bus ni taxi dans les principales artères de la capitale. Et cette situation a perturbé les moyens de transport en commun, comme l'explique Nadine Foula Nsimba.
Il était difficile d'attraper un moyen de transport en commun dans la ville de Kinshasa. Sur les artères de la capitale, il n'y avait presque pas de véhicules de transport en commun. Plusieurs files de piétons à la recherche des transports étaient observées. Autre chose, nous avons remarqué la quasi-absence des agents commis pour le contrôle de la vignette et assurance sur certaines artères de Kinshasa. Même les agents de la police de roulage n'étaient pas très visibles à certains endroits. Un des clients exprime son ras-le-bol.
En tout cas, j'ai fait le premier rond-point de la balise, mais je dois atteindre la ville. Alors, je suis vraiment en difficulté. C'est d'abord un problème sérieux. Les chauffeurs font face à une administration capricieuse. Mais ce que je déplore des chauffeurs, c'est que les propriétaires des véhicules de transport en commun n'ont pas la culture de paiement des impôts.
Côté chauffeur, ils justifient cet arrêt de travail par plusieurs tracasseries policières et administratives dont ils se disent victimes. Henri Nisumbu, président de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, prévient sur ces différents griefs.
Il n'y a pas longtemps, on nous avait demandé de peindre nos véhicules aux couleurs de la ville, d'acheter la patente, d'acheter la vignette et d'assurer nos véhicules, trouver nos véhicules pour aérer suffisamment ce bus. On nous a demandé d'acheter la taxe de stationnement. Vous remarquerez que pour une seule personne, c'est trop demandé. Et en même, nous sommes obligés à chaque coin de rue de débourser de l'argent pour les policiers.
La population chinoise espère que les autorités tiendront compte des revendications de la SECO.
La décision du gouverneur de la ville d'échelonner les paiements des taxes d'assurance, de la vignette et celle des parkings, décision annoncée mardi dernier à Kinshasa. Selon le gouverneur André Kimbuta, l'hôtel des villes va octroyer des crédits aux chauffeurs des transports en commun dont les véhicules n'ont pas des documents. Par ailleurs, la police nationale est sensibilisée pour les conseils et la vulgarisation en lieu et place des tracasseries. Ceci découle des concertations entre l'hôtel des villes, la DGRCA et l'association des chauffeurs du Congo ASECO en cible. Mesdames Mouyal Mangal, vous êtes journaliste et je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en cible. Cette situation n'était-elle pas prévisible, cet arrêt de travail des chauffeurs?
Oui, c'était véritablement prévisible. Du fait qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, au ministère des Transports et Communications, ou voies de communication, c'est véritablement des marchés en termes de services. Mais ça, cette situation nous permet de poser la question centrale. Où sont passés les bus de l'hôtel des Juifs qui nous avaient été annoncés avec pompe? Où sont passés les taxis de l'hôtel des Juifs qu'on a présenté lors de grandes manifestations publiques, si je me souviens, au 30 juin 2007 ou 2008, c'est l'hôtel des Juifs qui était en pompe. Où sont passés ces véhicules? C'est l'hôtel des villes qui nous avait été comme grande réalisation d'André Kimbuta. Donc il y a des questions, il y a des interrogations.
Et vous pensez que même si ces véhicules étaient là, et ils auraient été en mesure de combler les vides laissés par ces chauffeurs?
Oui, ça pose un certain nombre de choses. Dès lequel les services de l'État qui viennent combler, mais plus tard, on réalise que ça n'a jamais été des bus et des taxis de l'hôtel des villes, c'est pour des particuliers, mais qui ont été présentés sous le couvert de l'hôtel des villes. Donc c'est un cas de tricherie.
C'est là, n'engage que vous, hein?
Oui.
Marcelin Mandoukila, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions du quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et comment avez-vous analysé l'attitude des chauffeurs dans la ville de Kinshasa?
Je pense que l'équation est simple. Trop de taxes tue la taxe. Il y a tellement de tracasseries. C'est comme si depuis que le ministre des Finances a décrété les doublements de recettes, tous les services sont en alerte. Chaque service met en place une stratégie pour faire le plus de recettes et même parfois au détriment de la population. Vous ne pouvez pas au même moment, en tant que chauffeur, avoir affaire à la SONAS, à la DGRK, à ce qu'on appelle le bureau 2, qui avait des véhicules privés, qui pouvaient tomber brusquement sur un véhicule, bloquer. Ça fait trop de taxes. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de programmer? De dire, par exemple, au début de l'année, on aurait affaire à la SONAS. La campagne prend un mois. D'abord, quand ça a commencé, c'est un mois.
ça devrait s'arrêter. Mais après, il y a eu une prolongation. La deuxième carte s'invite à la fête. Le bureau de s'invite. Trop de taxes tue la taxe. Il faut qu'il y ait des bonnes stratégies qui tiennent compte aussi d'un élément important. L'État n'a pas vraiment de bus, comme l'a relevé
Mme Moya
tout à l'heure. Là. Ce sont les privés qui rendent service à la population. Il faut, si vous menez la campagne pendant un mois, vous réalisez des recettes, vous évaluez, vous vous dites ce n'est pas assez, attendez peut-être 3 mois après. Deuxième cas programme également, que les gens aient le temps de souffler. Vous voyez une campagne de recouvrement forcé, après, c'est le paiement échelonné, la sensibilisation, on doit y aller comme ça. Mais on ne doit pas tout accumuler au même moment, au point que dans la population, il y a un mouvement, il y a un sentiment de rejet. Bah, les QC, on paye des taxes, mais ces taxes servent à quoi? C'est comme on a dit avec Mosito, il y a des efforts. Mais quel est le résultat? C'est ça le problème. Tant les taxes tuent la taxe, il faut qu'on fasse proclamer certaines choses pour éviter de frustrer beaucoup plus la population qui passe déjà des moments très difficiles.
Guylain Banza, je rappelle que vous êtes directeur de la radio Télé-Fraternité et directeur provincial de l'ATP Kassai Oriental. Trop de taxes tuent la taxe, c'est comme vient de le dire Marcelin Mandakila. Quelles sont les conditions dans lesquelles travaillent les taximens dans la province du Kassai Oriental et plus précisément dans la ville de Mbujimayi?
Très déplorable. Très déplorable parce que lorsque je vais paraphraser le chef de l'État lui-même, à un moment il était fatigué. Il a parlé du gouvernement pour dire il ne faut pas toujours aller d'étude en étude. Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand on fait trop d'études, on tombe dans ce qu'on appelle aujourd'hui tracasserie. Sur la voie publique ici, en Mbujimayi spécialement, les quelques chauffeurs, les quelques taximens qui tournent encore, les propriétaires de véhicules qui ont laissé leurs véhicules pour faire les transports en commun, il faut dire qu'ils sont encore courageux. Les chauffeurs eux-mêmes sont courageux. Mais comprenez qu'on fait...
Les chauffeurs en Mbujimayi ne sont pas soumis aux taxes comme ceux de Kinshasa.
Non, mais je vous dis, moi, quand je dis à Kim, je dis par contre que les chauffeurs de Kinshasa sont à l'aise. C'est ce que je dis, moi. Mais ici, c'est pas possible. Il y a la police de circulation routière qui est là, qui va vous demander tous les documents que vous allez présenter, et en fin de compte, pour vous passer le temps, clignotant à gauche, à droite, 100 mètres, 50 mètres, ainsi de suite, et puis en fin de compte, papa, mais... Mais ça, c'est quoi, ça, finalement? C'est un système ou c'est quoi? On se procure des documents? C'est vrai qu'il y a des chauffeurs qui n'ont pas la culture de payer des impôts, de payer des taxes, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui ont tous les documents en règle. Les taximen souffrent. Les motos taximen aujourd'hui en Mbujimayi, c'est vraiment en vogue, hein, maintenant, depuis quelques temps. Mais il faut voir comment ces gens sont en train de peiner sur la voie. Ils sont en train de peiner, mais ils aident la population à partir de leur maison vers les lieux de travail. Il n'y a pas de transport en commun de l'État comme ont souligné les confrères. Mais ici, des tracasseries sont à quelques mètres. 500 mètres, vous avez des barricades de barrage. 500 mètres, c'est un service tel avec la police. C'est tel, mais non, dans des parkings, on retrouve même des taxes pour services de sécurité, des taxes pour... Mais des choses invraisemblables. Aujourd'hui, en Mbujimayi, il y a un phénomène, permis de conduire, il n'y en a pas. Le chauffeur qui a acheté le permis de conduire en Mbujimayi ne peut pas rouler à Kinshasa, parce que le papier qu'on lui remet n'a pas qualité de faire les documents nationaux. C'est un papier duplicataire, qu'on lui remet à moyennant 25 ou 30 dollars, selon la puissance de l'engin ou la qualité. Où est-ce qu'on va? Des places d'immatriculation. On achète, mais il n'y en a pas. On verse de l'argent à la banque, on attend, attendez quand ça va venir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tout ça, ce sont des problèmes sur le dos des chauffeurs qui sont sur le terrain. Maintenant, on délivre des choses et demande des permis de conduire à la place d'un permis de conduire parce que le permis national n'est pas là. Je crois que la situation est peut-être plus pire à Mbujimayi qu'à Kinshasa, je pense.
Merci, c'est la fin de cette émission. Alain Goy était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, assisté de Aimé Kamoua sous la supervision de Ben Kabamba. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Kapi. Thank you.
Thank you.